de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, 3 décembre 2019, et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire jeudi et mots d'Indonésie. L'heure suivante, magazine culturel, apprendre l'Indonésien. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie devient membre du Conseil exécutif d'Organisation maritime internationale catégorie C. Le législateur appelle au développement du tourisme dans l'économie verte. Le vice-président de DPD, l'Indonésie renforcera sa coopération avec Dubaï. Nusa Tenggara West est prête à exporter du café en Irlande. Eko Yuli fait don de la 6e médaille d'or d'Indonésie aux Jeux Sud-Est Asiatiques 2019. Et enfin, l'ouragan s'approche des Philippines. Certains jeux aux Jeux de Sud-Est Asiatiques sont annulés. Voici le journal complet. L'élection de l'Indonésie en tant que membre du Conseil exécutif de catégorie C au sein de l'Organisation maritime internationale OMI pour la période 2020-2021 en raison du vaste espace maritime international. C'est un gros avantage de proposer des règles de sécurité dans le commerce. Après la cérémonie d'ouverture de la Journée des Nations Unies lundi le 2 décembre 2019 à la Bibliothèque nationale de Jakarta, le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Febrian Arudiat, a déclaré que l'Indonésie pourrait représenter d'autres pays qui ne faisaient pas partie du conseil exécutif de l'OMI pour ce qui est de la sécurité du transport maritime.
Banyak kemarin, kalau nggak salah, ada beberapa hal nih mengenai IMO. Yang pertama, tentunya kita bicara kalau di IMO itu kan.
Il y a un certain nombre de choses à propos de la première OMI. Bien sûr, le contenu de cette dernière est la sécurité de l'expédition. Maintenant, en devenant membre du conseil exécutif de l'OMI pour la catégorie C, nous pouvons participer davantage à l'élaboration de normes de sécurité de la navigation dans le commerce. Nous apportons également des contributions sur les questions de développement durable, d'environnement et d'autonomisation des femmes dans le transport maritime. Nous sommes dans la catégorie C parce que même si nous ne sommes pas un pays dominant en matière de transport maritime, de fournisseurs de services et d'utilisateurs, nous avons un vaste espace maritime où le trafic maritime international est certainement une préoccupation. En siégeant au Conseil, nous pouvons d'abord nous impliquer davantage. Deuxièmement, nous pouvons représenter d'autres pays qui ne font pas partie du Conseil afin de pouvoir faire connaître leurs préoccupations concernant les questions de transport maritime. Febrian a ajouté que le comité d'audit de l'État avait également été élu en tant que membre externe du commissaire au compte de l'OMI pour la période 2020-2023, et ceci est le premier en Asie du Sud-Est. Les entrepreneurs indonésiens dans le secteur du tourisme de diverses régions devraient être plus actifs dans l'application du concept de tourisme à économie verte. Lydia Hanifa Amalia, membre de la commission 10 du Parlement, a déclaré dans un communiqué de presse lundi à Jakarta que la tendance dans le street du monde est actuellement popularisée le concept d'une économie verte. Une activité industrielle donne non seulement une valeur économique au pays par l'augmentation des devises, mais également respectueuse de l'environnement et socialement. Elle pense que les touristes d'aujourd'hui, quand ils arrivent à destination, ils ne veulent pas seulement obtenir l'expérience de la beauté du lieu ou de l'histoire du bâtiment, mais ils exigent également des garanties de sécurité, de confort, de propreté et d'un environnement préservé. L'Indonésie, selon Lydia, dispose déjà d'un capital de base en termes de richesse et de destinations touristiques qui sont très belles et ou historiques. Le vice-président du Parlement régional, DPD, Mahyudin, a déclaré que l'Indonésie pourrait potentiellement intensifier la coopération économique avec les Émirats Arabes Unis, en particulier Dubaï, en introduisant les potentiels de l'économie régionale dans 34 provinces d'Indonésie. Mahyudin, dans sa déclaration reçue dimanche à Jakarta, a souligné la nécessité de conclure immédiatement un accord entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie dans le contexte d'expansion des secteurs des investissements de Dubaï en Indonésie, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la santé et de l'industrie pharmaceutique au tourisme. C'est ce qu'a affirmé Mahyudin lorsqu'il dirigeait les délégués indonésiens lors de leur visite au département de l'économie du développement à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, récemment cité par Antara à Jakarta dimanche. Mahyudin a estimé que la coopération potentielle doit être soutenue par les gouvernements locaux afin de soutenir la croissance de l'économie locale et d'améliorer le bien-être de leur société. Il a dit, ces opportunités très prometteuses pour la région, en particulier dans les régions situées en dehors de Java, pour attirer les investissements de Dubaï, conformément à la promotion des potentiels régionaux à Dubaï. Les exportateurs de Nusa Tenggara West sont prêts à exporter le café Robusta vers l'Irlande pour répondre à la demande des acheteurs irlandais qui sont désireux du goût du café de Nusa Tenggara West. Un exportateur de Lombok, Lalu Torik, a expliqué qu'après avoir obtenu des informations sur le café, les importateurs irlandais ont rapidement été incités à acheter du Robusta à l'ouest de Nusa Tenggara. Cependant, selon lui, les importateurs irlandais ne commanderaient tout d'abord que quelques kilogrammes de café et observeraient son évolution sur le marché. Il a déclaré que les destinations d'exportation de café Robusta en provenance de Nusa Tenggara West s'étendent à deux pays. Avant d'être exporté en Irlande, le café de Nusa Tenggara West n'était exporté que vers la Corée du Sud. Eko Yuli Irawan, athlète lifter indonésien, a réussi à remporter une médaille d'or pour l'Indonésie après avoir remporté le kilo de 61 kg pour les Jeux de l'Asie du Sud-Est 2019 à Mani lundi. Eko Yuli a remporté la médaille d'or après avoir enregistré un total de 309 kg. Le lever âgé de 30 ans a enregistré des bribes de 140 kg et 169 kg en clean et jerk. Eko Yuli a battu le concurrent du Vietnam, Taj Kim Tuan, avec une force totale de 304 kg et Muhammad Azinil de Malaisie, qui a produit un total de 284 kg. Cette médaille d'or a amélioré le record d'Eko Yuli. Auparavant, aux Jeux Sud-Est Asiatiques 2017, il n'a remporté qu'une médaille d'argent. La tenue des Jeux du Sud-Est Asiatique en 2019 aux Philippines est menacée d'être perturbée par le typhon Kamuri qui s'est approché de la côte ouest du pays lundi. Jusqu'à présent, la colonne derrière des matchs de plusieurs sports des Jeux du Sud-Est Asiatique a été perturbée en raison du mauvais temps. La planche à voile aurait été annulée tandis que le match de triathlon était avancé par rapport à l'heure précédente. Rapporté par la AFP lundi, le comité des Jeux du Sud-Est Asiatique s'est préparé s'il devait organiser des matchs et plusieurs autres événements dans la salle. On estime que Kamuri apporte des fortes précipitations et de fortes rafales de vent pouvant atteindre 185 km à l'heure. Le typhon devrait atteindre l'est des Philippines lundi soir ou mardi matin. Jusqu'à présent, 70 000 personnes ont été évacuées de la région de Bicol située à l'ouest de Mani. Série du Drac, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la Journée internationale des handicapés. Aujourd'hui, le 3 décembre, le monde commémore la Journée internationale des handicapés. Depuis 1992, la Journée internationale des handicapés est célébrée chaque année dans le monde entier. Le thème de cette année est promouvoir la participation des handicapés et de leurs dirigeants, prendre des mesures concernant le programme de développement en 2030. Ce thème met l'accent sur l'autonomisation des handicapés pour un développement inclusif, équitable et durable, comme prévu dans l'agenda 2030 pour le développement durable. L'ordre du jour promettait de ne laisser personne et de reconnaître les handicapés comme une question transversale à prendre en compte dans l'application des 17 objectifs de développement durable. L'Indonésie célèbre également chaque année la Journée internationale des personnes handicapées. La directrice générale de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé, Anu Sugiantono, a déclaré que le gouvernement avait porté le thème national Indonésie Inclusion, les handicapés supérieurs lors de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Pour concrétiser ce thème, Anu a révélé les différents efforts déployés. L'un d'entre eux est la préparation et le lancement d'une feuille de route du système de services de santé inclusive pour les personnes handicapées 2020-2024. L'objectif est de créer des systèmes et des services de santé accessibles, complets, d'un coût abordable, de haute qualité, respectant la dignité et autonomisant les personnes handicapées. En Indonésie, les personnes handicapées ont tendance à avoir les progrès dans leur autonomisation. Ce pays a adopté la loi numéro 8 de 2016 concernant les personnes handicapées. Cette loi, née du soutien des militants handicapés indonésiens, fait référence aux principes énoncés dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Cette convention reconnaît que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres membres de la communauté. Par conséquent, le gouvernement central doit intensifier les programmes inclusifs pour les personnes handicapées couvrant toutes les régions d'Indonésie. Cette responsabilité incombe non seulement au ministère des Affaires sociales et au ministère de la Santé, mais également aux parties prenantes multisectorielles. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 3 décembre 1945, l'événement héroïque de la prise de contrôle de Gedung Sate. Après la proclamation de l'indépendance par l'Indonésie le 17 août 1945, des jeunes et des combattants ont pris possession de Gedung Sate, soit du bâtiment de Sate à Bandung, du Japon. Après cela, des jeunes de milieu de travaux publics et de transport ont fait de la base comme le siège d'une lutte commune avec les troupes de l'agence de lutte. Mais l'arrivée des troupes alliées en novembre 1945 a fait de Gedung Sate une base de lutte dans la ville de Bandung. Dans la bataille du 3 décembre 1945, 21 jeunes ont été tués et 7 jeunes disparus. 7 ans après l'événement, les squelettes de 7 jeunes hommes disparus ont été retrouvés autour de Gedung Sate. Gedung Sate ou bâtiment de Sate, qui est situé sur la rue du Ponegoro Bandung, est enfin devenu l'icône de Bandung en tant que bureau du gouverneur. Le jour de l'attaque du 3 décembre 1945 est devenu le jour du service public. Le 3 décembre 1984, la tragédie de Bhopal. La tragédie de Bhopal est un accident de travail survenu le 3 décembre 1984 à Nandi. La fuite de gaz toxique provenant de l'usine chimique Union Carbide à Bhopal aux États-Unis, plus de 20 000 personnes sont mortes. Cette tragédie dans l'état indien de Madhya Pradesh est le pire accident industriel de l'histoire. Cette tragédie a également porté atteinte à l'environnement pendant plus de 30 ans. Le 3 décembre est célébré comme la Journée internationale des personnes handicapées. La Journée internationale des personnes handicapées est une commémoration internationale parrainée par les Nations Unies depuis 1992 et commémorée chaque 3 décembre. Cette célébration vise à développer la compréhension publique sur le problème lié à la vie des personnes handicapées et à fournir un soutien pour améliorer la dignité, les droits et le bien-être des personnes handicapées. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée « Au même rythme » chantée par Ify Alisa. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique « Mon Indonésie ». Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique « Mode Indonésie » intitulée « L'Indonésie discute du renforcement des capacités des composantes civiles indonésiennes dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies ». Le directeur général par intérim de l'Amérique et de l'Europe du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tengku Faiza Shah, lors de l'ouverture de séminaire international sur les capacités des civils, construire les risques nationaux pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies à Jakarta le 29 novembre 2019 a souligné le rôle important de la composante civile dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Comme indiqué par kemlu.go.id, Tengku Faiza Shah a déclaré que cette composante doit être maintenue pour faire face aux défis de problèmes de paix à l'avenir. La composante civile peut renforcer les missions de maintien de la paix en soutenant les efforts de développement institutionnel et la protection des civils dans les zones de conflit. En outre, l'ambassadeur Tengku Faiza Shah a expliqué que le rôle de la composante civile était nécessaire dans certaines situations qui ne peuvent pas être gérées par les forces militaires de maintien de la paix. La composante civile apporte une touche humaniste cruciale dans la construction de la structure des sociétés sortant d'un conflit. Le renforcement des capacités civiles en matière des missions de maintien de la paix et de la consolidation de la paix après les conflits peut également être axé sur des questions telles que l'autonomisation des femmes, le respect des droits de l'homme et le soutien à l'application de la loi par le gouvernement local. L'Indonésie a déclaré trois points importants pour réaliser la mission de maintien de la paix efficace en conforme aux besoins actuels de l'ONU, c'est-à-dire que la composante civile doit être un élément important dans la mission de maintien de la paix dans un pays. Deuxièmement, renforcer le rôle des femmes. Et troisièmement, renforcer la formation par le partenariat mondial. Faire avancer le rôle des femmes dans la mission de maintien de la paix devient un point crucial parce que les femmes jouent un rôle important dans la prévention des conflits, la gestion des conflits et la consolidation de paix après les conflits. Dans le même temps, le renforcement du rôle des femmes peut également avoir une influence positive sur les autres femmes en conflit. Par conséquent, selon Faiza Shah, l'autonomisation des femmes dans la mission de paix n'est plus une nécessité. Elle soutient l'inclusion et l'égalité des genres. L'Indonésie a établi sa coopération avec divers partis pour accroître sa capacité civile, entre autres la création de l'Institut de l'ASEAN pour la paix et la réconciliation et registre des femmes pour la paix de l'ASEAN dans le cadre de l'ASEAN et par des consultations régionales sur l'avancement de la capacité civile par la collaboration avec la Norvège. La coopération souligne le sérieux de l'Indonésie de contribuer à accroître la capacité de la composante civile dans la mission de maintien de la paix dans le monde. Auparavant, Dino Erkusnadi, le directeur européen du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le séminaire international sur les capacités civiles, établir des listes nationales pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, avait pour objectif de discuter du renforcement des capacités de la composante civile indonésienne à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Selon lui, cela faisait partie des efforts de l'Indonésie pour renforcer l'écosystème de la paix internationale. L'une des questions prioritaires de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. Le séminaire a présenté des conférenciers du bureau de secrétariat de l'ONU à New York, des représentants du gouvernement britannique et belge, du quartier général de la police nationale de l'Indonésie, du centre d'études stratégiques et internationales et de groupes de réflexion. L'Indonésie, la Grande-Bretagne, la Belgique ont collaboré au séminaire en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de contribuer de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le séminaire a été assisté par des participants des ministères et institutions concernées, des représentants étrangers des pays actifs dans le domaine des missions de maintien de la paix, des universitaires et des groupes de réflexion. Chers amis, c'était Mode Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
lewat sudah. Tiga hari itu selamanya dan kekalah. Detik-detik di dalamnya tunggu sejuta rasa di hati yang dulu diingkari. Mungkinkah cinta itu di sana dua hati merekam bagai mimpi terwujud tak disadari kata hati. Tak semua didengarkan lagi. Waktu berpacu, harap pun jadi hasrat untuk memiliki. Kini tersisa rekat semata. Cuma langit biru setiap liku jalan itu akan selalu melukiskan kisah itu. Rindu yang kian terbendung lama akan mencapai batasnya. Berbuai indah kenangan baru sesal jadi penyatu. Segalanya telah berlalu. Semula indah terasa mereka seribu rencana. Rindu yang kian terbendung lama. Semua henti di sana, percuma.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée « Trois jours pour toujours » chantée par Flood. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Magazine Culturel.
Bonsoir à tous, voici le Magazine Culturel en produisant le culinaire Clan Sembilang à Gresik, Javaès. Voyagez à Gresik, Javaès, n'oubliez pas de goûter une variété de spécialités culinaires. Comme le district est directement adjacent à la mer de Java, au nord, il existe une variété de menus de fruits de mer de style Gresik que vous devez essayer. L'un d'entre eux est Klan Sembilang. Cette cuisine est basée sur le poisson sembilang. Sembilang est un type de poisson de mer dont la forme ressemble à celle du poisson chat ou de l'anguille. Le poisson sembilang a également un piquant sanglant et il est noir et glissant. S'il est traité correctement et cuit avec un choix d'épices, le poisson sembilang peut-être l'une de vos spécialités préférées. Klan Sembilang, Wosiaple, Kelo Kuning, par les habitants de Gresik, est fait de poisson sembilang, cuit avec de curcuma et de noisettes et des épices typiques des ingrédients transformés des communautés côtières. En remplacement du lait de coco, la graisse de poisson est utilisée pour obtenir un goût savoureux. Lorsqu'il est consommé, le goût est si distinctif, acide et épicé. De plus, la résistance des poissons épicés rend cette cuisine si délicieuse à manger, surtout avec une assiette de riz chaud. Parce que c'est une cuisine typique de Gresik, il n'est pas difficile de trouver Klan Sembilang. Il y a beaucoup d'états de nourriture vendant cette cuisine, en particulier sur l'autoroute Dendels. Parce que beaucoup sont intéressés à apprécier cette cuisine, vous devez l'acheter le matin. Pendant la journée, ces spécialités culinaires sont généralement épuisées par les connaisseurs de Klan Sembilang. Pour pouvoir profiter du Klan Sembilang, vous devez payer 20 000 rupiah par portion, tandis que pour la tête de sembilang, le prix par portion est entre 25 000 et 45 000 rupiah, selon la taille de la tête du poisson. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jadi intan bermata di hatiku. bicara. Dewa-dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku, ku kan setia bersamamu kasih.
C'était une chanson intitulée Balade de jeune homme chantée par Discoria. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler en indonésien. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Memberi kabar. Memberi kabar, ou en français on dit donner des nouvelles. Chers auditeurs, bonne écoute. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Memberi kabar. Memberi kabar, ou en français, donner des nouvelles. La situation est la conversation par le téléphone entre Tony, qui vient d'Angleterre, et Heru, l'ami de Tony, qui habite à Yogyakarta. Serge Littar, écoutons la conversation suivante. Heru, allô? Tony. Halo Heru, apa kabar? Heru. Baik, kamu? Tony. Aku juga baik. Oh ya, aku sudah tiba di Jogja tadi siang. Heru. Oh ya? Tony. Ya. Heru. Selamat datang di Jogja, Tony. Kamu menginap di mana? Tony. Aku menginap di Hotel Mutiara. Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Apa kabar? Apa kabar? Signifie « Comment vas-tu ?» Kabar baik. Kabar baik. Signifie « Je vais bien. » Juga. Juga. Signifie « Aussi. » Menginap. Menginap. Signifie « Loger. » Dimana. Dimana. Signifie « Où. » Kamu menginap dimana? Kamu menginap di mana? Signifie tu restes où? Aku. Aku. Signifie je. Hotel. Hotel. Signifie l'hôtel. Serge Ditar, la suite, c'est un exemple d'une conversation souvent utilisée pour demander des nouvelles entre les uns et les autres. Heru. Hey, apa kabar? Hey, apa kabar? En français, allô, comment vas-tu? Tony. Baik. Kamu? Baik. Kamu? En français, je vais bien, merci. Et toi? Heru. Aku juga baik. Aku juga baik. En français, je vais bien aussi, merci. Bon, chers auditeurs, vous pouvez répondre basé sur votre situation. Par exemple, Heru. Hallo, apa kabar? Hallo, apa kabar? En français, allô, comment vas-tu? Tony. Saya sedang pusing. Saya sedang pusing. En français, j'ai un peu mal à la tête. Bon, dans la conversation précédente, Tony utilisait toujours le mot « saya ». Mais quand il parle à son ami, il utilise le mot « aku ». Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation ci-dessus. Heru. Hallo? Tony. Hallo Heru, apa kabar? Heru. Baik, kamu? Tony. Aku juga baik. Oh ya, aku sudah tiba di Jogja tadi siang. Heru. Oh ya? Tony. Ya. Heru. Selamat datang di Jogja, Tony. Kamu menginap di mana? Tony. Aku menginap di Hotel Mutiara. Serge ami, en indonésien, il y a deux pronoms à la première personne qui sont souvent utilisés. Ce sont saya et aku. Quand vous parlez à quelqu'un que vous respectez, à une personne âgée, à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, à personne dans une situation formelle, utilisez le mot saya. Mais quand vous parlez à un ami, vous pouvez utiliser le mot saya et aussi aku, comme vous voulez. Pour le pronom de la deuxième personne ou la personne à qui vous parlez, les mots utilisés sont kamu et anda. Le mot vous est habituellement utilisé dans des situations formelles ou en lettres, tandis que le mot kamu est seulement utilisé quand vous parlez à des amis ou aux petits-enfants. Chers auditeurs, voilà l'émission d'apprendre en indonésien d'aujourd'hui, intitulée « Memberi kabar »,« Donner des nouvelles ». J'espère que cette édition peut être utile pour vous qui voulez savoir plus l'indonésien. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.
Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama. Kasihku, katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakannya sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali?
Wait, I know I've made a few mistakes in the past, yeah. But I was so young like Drake in the grass. See, bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie, yeah. I miss you so much, girl, I can't sleep, yeah. And if you still want me, then tell me, tell me how to make it come back.
Katakanlah saja bila, bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta, katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali.
I miss you so much, girl.
Kita saling merindu,
yeah. And if you still want me, then tell me.
Katakan sejujurnya.
Voice of Indonesia.
Tak terkena manjakan lidahku. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Masih banyak yang belum sempat.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Manquer l'un à l'autre » chantée par Ran. Et chers amis, nous continuons notre programme avec Magazine Musical.
Chers amis, bonsoir. Nous présentons une chanson malaise intitulée « Seringit Dua Kupang » chantée par Ahmad Sauri et Pipi Andayani. Chers amis, la chanson intitulée « Seringit Dua Kupang » se compose de versets pantun contenant du sampiran et son contenu. Les paroles sont chantées, répétées et à tour de rôle par Ahmad Sauri et Pipi Andayani. Les paroles de cette chanson racontent des conseils de la vie dont le tempo est rapide. De plus, la notation de la chanson est répétée, de sorte que le ton de cette chanson est facile à retenir. Bon, chers amis, voici la chanson dont le titre est « Seringit Dua Kupang » par Ahmad Sauri et Pipi Andayani. Bonne écoute.
Jadikan umpan,
bujang dandara ikut menari, bujang dandara ikut menari,
terpaut kasih dalam senyuman, terpaut kasih dalam senyuman.
Sungai Deli jernih airnya, Sungai Deli jernih airnya,
bermacam ragam ikan berenang, bermacam ragam ikan berenang.
Senangnya hati bukan mainnya, senangnya hati bukan mainnya.
senyum tampak mengembang. Bibir tersenyum tampak mengembang. Putra Kelantan, mencuri hati putra Kelantan.
Bersenda gurau atas beranda, bersenda gurau atas beranda.
Bertegur sapa sangatlah sopan. Bertegur sapa sangatlah sopan.
Chers auditrices et auditeurs, dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.